Après, les choses seront peut-être différentes. Alors, pire.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3 ou en streaming sur rfpp.net. Radio associative composée de militants bénévoles qui proposent des programmes musicaux, culturels, sociaux et politiques pluriels. La voix des sans-voix.
Vous êtes sur FPP 106.3 et nous allons écouter un entretien avec le chef du village Kwanan en Guyane, transmis par Nadège, qui a fait ce reportage le 20 février 2021. Au village amérindien de Kourou, les autorités interdisent aux habitants de pêcher de manière traditionnelle et ont détruit deux filets de pêche. Les villageois sont en colère car c'est leur mode de subsistance qui est en jeu, une atteinte à leur tradition et la négation de leurs droits.
Donc je suis avec le chef Louis. Vous êtes le chef de quel village ?
Alors, je suis le chef du village Kwanan, sur la ville de Kourou. Voilà. Il se trouve qu'il y a l'ancien village qui est en bord de mer, sur la ville de Kourou. Et dans le chef, on va dire l'autorité traditionnelle est Jean-Charles Aubéric. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, il y a des lois qui ont été actionnées cette année, mais qui existaient déjà. Et cette loi-là n'est pas en conformité et n'est pas du tout faite en approbation avec les peuples autochtones qui sont justement sur le littoral de la ville de Kourou.
Et que dit cette loi ?
Les restrictions de cette loi-là, c'est qu'on ne peut pas mettre de filet à 300 mètres du bord du rivage. Donc ça veut dire que si maintenant on veut pratiquer la pêche au filet, il faut avoir une barque pour aller bien au large. Donc ce n'est pas du tout dans la tradition, puisque l'Amérindien ne laisse pas son filet dans la mer. C'est juste au quotidien qu'il fait ce prélèvement, on va dire, de nourriture dans l'espace halieutique. Voilà, donc les forces de l'ordre sont arrivées, ont récupéré les filets, ont confisqué les filets et les ont découpés. Voilà. Donc maintenant, ces filets, il faut savoir que ces filets sont utilisés pour alimenter une famille. Donc une famille parfois se compose de 4-5 foyers. Donc ça veut dire que ces familles-là, il y a deux filets qui ont été récupérés. Donc ça veut dire qu'il y a une dizaine de foyers qui ont été privés de nourriture. C'est un apport important et d'autant plus que certains membres de cette famille ne travaillent pas. Donc voilà. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a interpellé l'État. On est pour l'instant dans l'espace de dialogue. Et j'espère qu'il aboutira à des solutions pérennes, justement, pour toutes les familles qui sont sur le littoral en bord de mer de la ville de Kourou.
Et vous avez une réunion prochainement, c'est ça, mardi
prochain ? Voilà. Donc on a une réunion avec la préfecture, les services de l'État qui est la DGTM, la mairie de Kourou et la gendarmerie maritime en question. Ben, on attend de cette réunion, comme je l'ai dit, des solutions pérennes et que vraiment l'existence des peuples autochtones, ce qu'on appelle plus communément les Amérindiens, que soit pris en compte, pas soit pris en compte, mais on va dire avec tout ce qui compose, parce que on va dire c'est une communauté qui est négligée et qui, contrairement à l'histoire de la Guyane, qui est le premier peuple, on va dire de ce territoire, n'est pas pris du tout en compte par les différents mandats de l'État qui se succèdent en Guyane.
Oui, derrière cette histoire de filet de pêche, il y a aussi plein d'autres histoires qui révèle en fait ce traitement des autorités françaises vis-à-vis du peuple autochtone. Il y a beaucoup de choses en fait, hein. Il y a beaucoup de discrimination en fait.
Voilà, il y a beaucoup de discrimination non seulement, mais après il y a les inégalités qui persistent. Alors qu'il y a des lois qui existent pour chaque inégalité, ben, nous on n'est pas du tout confortés et encore une fois pas pris en compte du tout dans tout ce qui devrait se faire en faveur des peuples autochtones, notamment les droits internationaux des peuples autochtones, qui n'est pas du tout appliqué sur le territoire de Guyane. Et je trouve mal placé la France pour donner des leçons. Je suis désolé, mais nous sommes les premiers écologistes de ce territoire.
Les actes qui sont produits par rapport au filet, ce n'est pas la première fois, non, au village ou même ailleurs, où on arrache
Apparemment, ce n'est pas la première fois. Mais là, c'était flagrant, on va dire, c'était carrément défier la communauté, quoi.
Et justement, alors, c'est quoi votre avis ? Qu'est-ce que ça raconte ? Parce que, quelles sont les raisons officielles qu'ils donnent à ces filets ? C'est l'interdiction, c'est la loi. On n'a pas le droit de poser ces filets Par rapport à quoi ? Par rapport à la protection de la biodiversité maritime, c'est quoi les
voilà, voilà. Donc en ce moment, il devrait y avoir, c'est la saison de la ponte des tortues. Mais il faut savoir qu'ici, nous, on ne tue pas les tortues, on ne mange pas les tortues. D'accord ? Ça se fait ailleurs, le prélèvement des œufs de tortues se font ailleurs. Et ici, les statistiques des associations protecteurs justement de la nature prouvent complètement qu'elle est nulle. La mort des tortues, elle est quasi nulle sur ce rivage-là, là, dans ce lieu de vie amérindien.
Alors, quelle est la raison derrière tout ça ? S'il n'y a pas d'impact écologique, puisque de toute façon, vos cultures pratiquent ces pêches depuis des millénaires, et n'a pas eu d'impact sur la nature, c'est quoi la raison qui a fait derrière ?
Ce coup de force, je pense que c'est en conformité avec le permis de chasse qui sera bientôt adopté, donc en 2023, puisqu'elle existe déjà, mais qui n'est pas totalement abrogée par, la Guyane dans son ensemble. Donc, je pense que c'est pour, c'est pour dire que voilà, le permis de chasse va être actionné bientôt. Donc, il faut savoir que le permis de chasse comprend aussi tout l'espace halieutique, donc la pêche qui est concernée. Et voilà, donc c'est là qu'on a un problème, puisque l'autosuffisance alimentaire des peuples autochtones, c'est principalement la pêche. Voilà.
Et donc, le fait de le réglementer, c'est aussi restreindre cet apport-là.
Voilà, exactement. Donc, je dirais en gros, pour que tout le monde comprenne, voilà, si on vous cadenasse votre congélateur, votre frigo, vous n'avez plus rien à manger. On vous prive de nourriture.
Et vous disiez aussi que la pêche, c'est pas... Bien sûr, la raison principale, c'est la subsistance. Mais qu'il y a aussi derrière tout ça, c'est aussi un moment privilégié entre père et fils, en famille, pour transmettre aussi la tradition et la culture.
Voilà. Il faut savoir que, oui, dans nos traditions, dans nos coutumes, la pêche et la chasse, ce sont des activités par lesquelles on fait la transmission orale de tout ce qui est sujet qui se rapporte à la vie. Donc c'est un moyen en particulier pour les hommes, la chasse et la pêche, de transmettre de père en fils toutes ses connaissances.
La pensée.
Voilà, exactement.
Pas seulement le geste de la pêche.
Voilà, pas seulement le geste, voilà.
Donc votre position, elle va être de dire qu'il faut prendre en compte les traditions amérindiennes, etc. Mais mardi, si vous avez des oreilles fermées, quelle va être la suite ?
Écoutez, on ne prend pas les décisions tout seul. Après la réunion de mardi, ça dépend de comment cela va se passer. Donc après, on fera une réunion avec la population. Et parce qu'ils sont assez remontés quand même, parce que là, ça dépend des familles, des personnes âgées. Donc, cette nourriture-là, vous voyez, donc, c'est un gros tracas. Donc, après, on prendra la décision peut-être, comme on l'a dit, qu'on l'a fait part au sous-préfet, à l'État. Peut-être qu'on va faire le blocage du centre spatial guyanais. Sinon, si on ne fait pas ce genre d'action, que l'État n'écoute pas, on peut en arriver là, effectivement. Voilà, donc ici, pour se faire entendre, il faut faire du bruit. Il faut qu'il y ait la télé, les médias, donc à partir de là, l'État, on va dire, a un semblant d'écoute. Mais c'est assez difficile quand même. Hein.
Et hier soir, ici même, il y avait une réunion, et bien sûr, du village et des chefs coutumiers, mais il y avait aussi d'autres entités comme Trop de Violence, je crois que c'est ça, le collectif Trop de Violence, qui portait le discours que c'est ce qui s'est passé n'est pas qu'une histoire amérindienne, mais que c'est aussi une histoire de tous les peuples autochtones guyanais, peut-être même au-delà. On pourrait dire qu'il y a une volonté de convergence, quoi, des luttes des peuples. C'est quoi votre position à vous ?
Voilà. Les associations civiles viennent souvent nous porter la main, nous aider, nous soutenir dans nos combats, puisque, en fin de compte, quand on regarde bien, toutes ces restrictions de loi ne concernent pas les peuples autochtones directement, mais l'ensemble de la Guyane. Et comme les peuples autochtones sont minoritaires et, on va dire, n'ont pas les moyens de financement convenables pour subvenir à leurs besoins, Donc, ce sont les premiers à pratiquer tout ce qui est naturel au niveau de la chasse, de la pêche.
Et donc, cette convergence de différentes communautés, vous la voyez plutôt d'un bon œil ?
Oui, bien sûr. Je le redis, ça concerne l'ensemble de la Guyane, puisque les textes de loi sont appliqués sur le territoire guyanais.
Merci beaucoup,
chef. Merci à vous.
Monsieur Thérèse.
Et donc vous êtes habitant de ce village ?
Oui, depuis des années. J'ai vécu ici, je suis né ici, je suis un Corosien. Je connais très bien mon pays par rapport à que je suis vécu ici.
D'accord. Et vous êtes pêcheur aussi ? Vous pêchez ?
Je pêche aussi. Moi, ça m'arrive de pêcher. Il y a des moments où je pêche, le week-end, quand je suis libre. Quand je suis un peu seul aussi, ça me donne, me détendre un peu et prendre des poissons, des trois données, aller les gens qui ont besoin. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un généreux. Je ne suis pas quelqu'un qui vend les poissons, qui fait de n'importe quoi. Je suis toujours comme ça. J'ai été toujours comme ça. J'étais toujours être loyal. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai eu avec les gens qui sont compétents, plus que moi. J'ai pas été content par rapport à ces gens qui sont venus des maritimes, qui sont venus et pris les filets comme ça, comme quelqu'un, comme un clandestin. Moi, je suis pas un clandestin.
C'est le filet de votre beau-fils qu'on a.
Ça, c'est oui. Et moi, j'étais pas content parce que c'est la première fois qu'il a jeté. Il a demandé d'abord à moi, je peux. Je dis oui, tu peux. Tu es libre. Je dis au village indien, tu es libre. Et les gens qui sont venus, hop, ramasser les filets, hop, hop, déchirer les filets, couper les filets. Ah, j'étais pas d'accord.
Sans négociation possible.
Sans négociation possible. Oui, voilà. Sans négociation possible, ouais. Et agressif. Et ça, moi, je n'ai pas aimé. C'est ce que moi, j'étais en colère. Moi-même, personnellement, j'étais en colère. Moi qui a vécu ici, ce qui m'a mis en colère, c'est que c'est injuste qu'ils ont fait. Et c'est ça que je n'ai pas aimé. Je dis, pourquoi ils font ça? Et pourquoi les gens qui sont à l'extérieur et à l'étranger, ils ne ramassent pas les filets? Et nous, on met les filets juste à côté? C'est juste pour notre gagne-pain?
Oui, c'est ça, parce que vous pêchez finalement pour la famille.
Ben
pour
oui,
manger.
Voilà.
Vous n'êtes pas pêcheur de profession.
Non, ce n'est pas ma profession. C'est la pêche, c'est comme nous, on a vécu naturellement. C'est ce que nous, on respecte.
C'est une culture ancestrale.
C'est culturel, voilà.
Dans votre culture,
voilà. C'est notre culture, c'est que nous, on a fait depuis des générations de ces générations. C'est notre culture, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et c'est que nous, c'est ce qu'on fait. Et les choses qu'on fait, on fait les choses humblement, naturellement. Nous, on respecte les choses loyales. C'est ce qu'on veut, nous. Mais c'est que les gens, ils profitent comme ça, c'est pas normal.
L'autorité maritime, voilà, il n'y avait pas de négociation possible, ils étaient agressifs et ils n'ont en aucun cas été voir le chef coutumier.
Non.
D'abord, avant d'enlever ces filets, ils n'ont pas été.
Non. Ils n'ont pas été, ils ne sont pas venus, ils n'ont même pas demandé à qui ça appartient, à qui c'est là, ils n'ont jamais demandé. Donc, du coup, moi, je suis parti voir l'autorité, je dis, si il faut venir voir comment ça se passe. Elle n'était pas d'accord. Et là, il n'était pas d'accord. Par rapport. Qui ramasse les filets comme ça, je dis non. Un filet, c'est pas donné. Un filet, c'est donné, on achète.
Ça coûte cher.
Un filet, c'est 300 ou 400 euros. Alors.
Et là, ils les ont détruits.
Ah, ils ont détruit. Ils ont ramassé les filets. Et moi, je suis pas d'accord.
Et ils ont mis des amendes ?
Non.
Non.
C'est ça les problèmes. C'est pour ça, nous, on attend la préfecture pour que ces gens-là. Qui nous rend les filets encore, parce que c'est nous qui avons acheté.
Ils les ont confisqués.
Ouais, confisqués. Alors, si c'est comme ça, alors il faut rembourser. Parce que ces gens, les maritimes, c'est pas bien. Ils auraient pu passer par là, au chef, d'abord, demander qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis, nous, on est bien gentils, mais on ramassera les filets. Mais c'est ce qui s'est passé là. Ramasser des filets automatiquement, et puis... comme des déchets des poubelles, on n'a pas aimé ça. Il faut que eux déjà, l'autorité, pense à la jeunesse. À la jeunesse, déjà, premièrement. À la jeunesse, parce que la jeunesse, ils ont besoin aussi de médecins. Parce que, et l'autorité, ils ont dit, nous on a besoin, la préfecture, et la maritime, le chef des maritimes, et les gendarmeries. C'est ce que nous, on veut. Qu'il faut que nous, on doit nous respecter aussi. Dans un domaine naturel, je dirais. Mais alors, c'est pour ça que moi, nous, j'ai demandé à M. Obiric que je dis, défendre un peu le territoire amérindien, défendre les choses à nous.
Obiric, c'est le chef du village.
Le chef du village, oui. Voilà. Je l'espère qu'il y aura les préfectures qui vont venir. Je ne sais pas quel jour, quelle date. Mais je veux qu'on parle de ça. Parce que je ne veux pas que, comme ça, au village amérindien, un jeune homme qui va mettre son pêche à 50 mètres pour mettre pêcher pour avoir besoin des personnes, pour manger. Attends, c'est pas tout le temps que les maritimes vont venir chercher les filets, et une filet, c'est pas donné. Alors, c'est moi, je trouve pas c'est normal.
Ben, merci beaucoup pour le témoignage.
De rien, je vous en prie.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel. FPP 106.3 en FM à Paris et proche banlieue ou www.rfpp.net partout dans le monde sur FPP, vous avez le choix.
FPP, la voix des envois.
Je m'appelle Jean-Aubéric Charles, chef coutumier du village amérindien de Kourou et puis également adjoint au maire de la ville de Kourou.
Vous avez appris comment les faits qui se sont passés, la destruction et la confiscation des filets?
En fait, j'étais présent ici, on m'a appelé, donc j'étais sur le lieu. Et c'est là que j'ai vu des agents enlever les filets des pêcheurs de la communauté. Et ceux pour lesquels j'ai demandé des explications, ils m'ont répondu qu'ils sont en application des arrêtés qui étaient établis depuis 1984. Et il se trouve que l'équipe qui était là, c'était une nouvelle équipe qui s'appelle ULAM 973 et qui était en place depuis quelques mois et qui se mettait à appliquer réellement les règles. Donc alors j'ai posé la question que ici c'est quand même la zone amérindienne et comment ça se fait que nous-mêmes on n'ait pas été avertis. Un agent me disait qu'il y a un mois ils ont déjà fait une telle opération, il y avait des personnes là. Semble-t-il. Donc ça n'a pas été vérifié parce que nous, l'information n'a pas été remontée jusqu'à moi. Et sinon, on aurait réagi de suite. Et, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et là, on était vraiment surpris parce que heureusement que les personnes, les pêcheurs, étaient sur place. Ils surveillaient leurs filets. Parce que comme on était confrontés à des vols. Et peut-être que même les filets qui disparaissaient à l'époque, c'était eux qui les enlevaient. Donc, si bien que les gens sont devenus tellement méfiants que quand ils posaient les filets, ils restaient là à surveiller. Donc, c'est là qu'ils ont su, qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Donc, là, c'est comme ça qu'on a su réellement que les affaires maritimes, bon, apparemment, exécutaient les arrêtés.
Alors que depuis 1984, vous n'aviez pas de soucis avec les affaires maritimes? Non,
il n'y avait pas de soucis, il y avait des bons rapports, parce que les équipes qui étaient là, bon, c'était des agents hein, bon, qui étaient conciliants, ils connaissaient les droits des Amérindiens, donc même si ce n'est pas des droits écrits, mais c'est des droits coutumiers, donc les agents connaissaient un petit peu cette réalité-là, et laisser aussi les personnes vivre de leurs moyens de subsistance, c'est quand même un moyen de vie qui a permis aux familles amérindiennes d'exister jusqu'à ce jour. Parce que là, il est impensable, par exemple, surtout dans cette crise de Covid, que les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont sans revenus, donc au moins laisser un moyen de se souvenir à leurs besoins. Donc et ça, par exemple, il y a une mamie là tout à l'heure qu'on a rencontrée, eh bien, elle disait que voilà, le seul moyen avec lequel son petit-fils lui donnait du poisson, eh bien, on ne l'a plus. Alors comment il va faire? Comment il va faire maintenant? Donc on ne sait pas trop...
comment vous allez vous organiser pour pallier là?
Donc là, disons, on va enclencher disons, une réunion avec les autorités pour voir déjà pour annuler un petit peu les amendes qui normalement semblent-ils intégrées dans l'arrêté et au moins qu'ils restituent le matériel et aussi qu'on puisse aménager cet arrêté pour que la possibilité soit donnée aux familles qui sont ici de poser leur filet, qui ne détruisent pas par rapport à ce qu'ils disent là. Il ne détruit pas réellement la forêt, hein, le milieu halieutique. Donc au moins pour que permettre à ces familles de se souvenir à leurs besoins. Donc je pense que une loi, c'est une loi des humains, donc qui peut se travailler d'une manière concertée. pour que tout et chacun puisse trouver son, sa vie sereine. Quoi.
Oui, donc vous n'êtes pas pour l'effacement de ce décret, mais une application intelligente.
Oui, il faut qu'il y ait des dérogations adaptées aux familles amérindiennes, aux communautés amérindiennes qui soient aux abords des plages, aux abords des fleuves, aux abords des creeks et même de la mer. Donc je pense qu'il y a des possibilités en ce sens, donc que les dérogations puissent être mises en place.
Ça, en 84, ça n'avait pas été négocié.
Non, ça n'a pas été. C'était une application intégrale, une copie des textes de loi de France par rapport à la Guyane. Donc j'ai dit non, on ne peut pas faire comme ça. Donc il y a des méthodes de consultation qui sont mises en place, donc il faut qu'on rentre dans ce processus-là. Et on peut être conciliant en tout domaine, mais il ne faut pas que ce soit unilatéral.
Et votre sentiment, c'est que là, le zèle de la nouvelle équipe des autorités maritimes, est-ce qu'elle est réellement, parce que ce sont des nouvelles personnes qui ne connaissent pas le territoire et la problématique, ou est-ce que votre sentiment, c'est que quelque part, ils ont eu des ordres de plus haut?
Oui, ouais, sans doute, ils ont eu des ordres un peu plus haut, mais les agents qui appliquent, disons, cet arrêté-là, je pense qu'ils ont fait un peu de zèle, ouais, parce qu'ils disaient qu'ils sont des Guyanais, mais ça m'étonne fort bien, parce qu'un Guyanais, quand même, il sait la réalité de son pays, et apparemment, cette réalité-là, ils étaient bien loin de le connaître. Donc, j'ai dit que... Dans tous les cas, dans tout ce mécanisme-là, on missionne toujours les personnes qui nous ressemblent. Parce que ça fait beaucoup plus de mal à la communauté ou aux ressortissants. Parce que c'est ainsi qu'est fait la loi française. Hein. On met toujours les ressortissants pour accéder plus facilement dans la brèche, soit communautaire, soit de l'entité. Quoi.
Ouais. Et là, juste une question qui me traverse, la dernière, ça fait au moins 6 ou 7 fois que je vois les gendarmes passer. Est-ce que c'est tout le temps comme ça au village?
Oui, non, mais c'est exceptionnel aujourd'hui parce qu'ils surveillent un petit peu ce qui se passe. Donc,
c'est
non, c'est bon. Je pense que ils ont reçu des ordres de surveillance pour voir s'il n'y a pas des bagarres ou autres. Bon, non, c'est pas le cas. Donc là, il y a quand même une autorité que j'exerce. Donc avant que ça arrive au plus haut niveau, donc là, au moins, on est déjà sur place, quoi.
Vous arrivez à
tout à fait, tout à fait. Bon, ça, c'est le rôle de chef coutumier. Donc à maîtriser ces gens. Mais on a bien vu hier à la réunion, il y en a qui étaient remontés. Donc là, le rôle du chef, c'est aussi de contenir cette fougue pour qu'on puisse le rendre beaucoup plus productif. Voilà, c'est ça le rôle de chef coutumier.
Très bien. Donc le prochain rendez-vous, c'est mardi prochain avec le préfet.
Oui, le préfet, et puis les affaires maritimes seront présentes. Et puis là, je prépare un peu les fondamentaux d'une revendication pour qu'on puisse avoir des éléments de travail. Quoi.
S'appuyer sur
des textes. Des textes, et puis aussi les pressentis des habitants, parce que par exemple, on habite là depuis 71, ici, cette zone-là. On est revenu quoi, dans cette zone-là depuis 71. Depuis 71 jusqu'à 84, il n'y a rien de particulier. C'était notre zone de subsistance. Il y avait des palétuviers, donc ça nous servait énormément. Au niveau des ressources, c'était assez riche. Et puis les familles, malgré qu'ils touchaient peu d'argent dans les entreprises de l'époque, bien arriver quand même à bien vivre. Voilà. Au niveau alimentaire, ils étaient bien nourris. Donc, et puis aussi nourrir les enfants. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que si on se reposait que sur les ressources de travail,
Avec le
chômage, je ne sais pas, mais avec le coût des habitations, le coût de l'eau, l'électricité, on travaille pour la société. Quoi, en fait. Dans ce cas-là, on arrive quand même à s'en sortir, donc c'est déjà ça. Mais là, si on nous enlève ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, on ne sait pas trop dans quelle situation on sera. Quoi. Ça peut être catastrophique parce que les enfants, les jeunes seront vraiment livrés à eux-mêmes. Quoi. C'est peut-être vers cela qu'on nous pousse, mais on essaie au niveau, avec des chefs de famille, de canaliser les actions pour que l'on continue à perpétuer les traditions, pour former les jeunes au niveau de la chasse et la pêche. Et puis là, on nous l'enlève quelque part. Et on nous empêche de, d'éduquer nos, la jeunesse à continuer à perpétuer la, la tradition, les techniques de chasse, les pêches, tout ça. Et ça, ça devient grave.
Voilà. Je vous remercie beaucoup, chef.
Merci.
Merci, monsieur Alexandre.
Et donc, tu es un jeune du village, c'est ça? Oui, tu habites ici?
Oui, ça fait longtemps.
D'accord.
Depuis ma naissance.
Depuis ta naissance, d'accord. Oui. Et donc, par rapport à ce qui s'est passé, à cette confiscation des filets de pêche, à cette destruction des filets de pêche, c'est quoi ton regard là-dessus?
Mais pour moi, ce n'est pas normal, comme quoi ils retirent le filet comme ça. Au lieu d'avertir la personne, en tranquillité, non, c'est en agressivité qu'ils sont en train de prendre le filet comme ça. Il s'est montré comme quoi, il est énervé. Il s'est dit, comment ça se fait? Ça fait depuis longtemps, ça existait déjà, les gens, ils posaient leur filet ici. Et je ne vois pas pourquoi maintenant, ils viennent avec leur loi, le truc de la police, tout ça. Là. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi que ça en arrive là, tout ce truc-là. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas d'accord pour cette situation qui se passe en ce moment.
Et est-ce que toi, tu vas pêcher, par exemple, avec ton père ou quoi?
Oui, moi, je vais pêcher parce que, imagine, on n'a rien, c'est avec ça qu'on vit. Déjà, premièrement, parce que ce n'est pas l'État qui va nous donner l'argent pour nous donner à manger tout le temps. On fait peu le moyen, même si ma grand-mère n'a pas à manger chez elle, on va juste poser le filet, après on revient ici. Mmh. Après on va faire nourrir ma grand-mère. Tu vois. Depuis petit, nous on pêche déjà. C'est la tradition pour nous. On ne peut pas oublier notre coutume de la pêche, la chasse, tout. On ne peut pas laisser ça comme ça.
Et vous en avez parlé entre jeunes de ce qui s'est passé? Et c'est quoi? Tout le monde est...
Et tout le monde n'est pas
tout
d'accord.
Tout le monde est concerné?
Voilà, tout le monde n'est pas d'accord en fait sur cette situation-là.
Parce les personnes qui s'en fichent.
Oui,
quoi.
Parce que si ils sont en train d'interdire la pêche, la chasse, et comment on va se nourrir après? On serait foutus après.
Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour que ce genre d'acte de l'État, que ce soit la police maritime ou ce qu'on veut, mais l'État français, pour que ça s'arrête, ce genre de choses, pour toi, comment il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire?
Pour moi, il faut qu'il parle avec le chef coutumier. Et il faut qu'il trouve une solution. Mais nous, on va pas laisser faire la police et le truc faire ça pour comme quoi de nous interdire les choses. On va pas se laisser faire.
Ben merci beaucoup.
À vous aussi.
Vous êtes sur FPP 106.3 et on vient d'écouter un entretien avec le chef du village Kouanan en Guyane, transmis par Nadège, qui a fait ce reportage le 20 février 2021. Au village amérindien de Kourou, les autorités interdisent aux habitants de pêcher de manière traditionnelle et ont détruit deux filets de pêche. Les villageois sont en colère car c'est leur mode de subsistance qui est en jeu, une atteinte à leur tradition et la négation de leurs droits.
Je te côtoie depuis l'enfance, depuis le jour où je débarque en France. À l'époque j'avais confiance, t'étais celle que les bancs de l'école encensent. Les manuels semblaient tous unanimes, ta maxime avait toute mon estime. En trois mots j'étais conquis, j'avais compris, tu portais le cri que le peuple exprime. Légitime, bienveillante, généreuse, solidaire, accueillante. Que de vertus, que de compliments, ton bilan paraissait concluant. T'avais tué l'Empire et les sangs bleus, fait des lois pour étrangler les temples. T'as fait trembler les grands, crever l'écran, t'étais celle qu'on érige en exemple. Répugnant république, répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un grand oui bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république, répugnant république. Avec toi le bâton n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain. Puis j'apprends les heures sombres de ton histoire, l'envers du décor de tes victoires. La mémoire chargée de sang t'a défendu l'étendue de ton territoire. J'apprends que derrière ta bonhomie se cache l'économie de tes colonies. Assaillie, vassaillera, folomie quand le trône autochtone enrichit tes lobbies. J'apprends les barbouzes, la France-Afrique, la ronde des valises diplomatiques. J'apprends l'Indochine, j'apprends Papon, j'apprends Sétif et ton goût des canons. Soudain la candeur se dissipe, je me méfie de tes disciples. Tant de déni de crimes indicibles, soudain j'accuse et renie ton hémicycle. Répugnant république, répugnant république. Gueule de vache, gueule de flic, dis-moi pourquoi rester courtois. Tu n'as qu'un grand oui bourgeois, dis-moi comment voter pour toi. Répugnant république, répugnant république. Avec toi le bâton n'a fait que changer de main. Je sais que je dois te dépasser si je veux chanter demain.